En cette journée où l'eau est partout, le Fonds de recherche du Québec Santé, le FRQS, a accordé un financement majeur à la professeure Anne Crocker pour un projet de recherche visant à soutenir les proches de personnes aux prises avec un problème de santé mentale grave. Et j'ai le plaisir d'en parler avec la principale intéressée, Anne Crocker, professeure titulaire et directrice de la recherche et de l'enseignement à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel et titulaire de la chaire de recherche du Canada en santé mentale, justice et sécurité. Bonjour, Madame Crocker.
Bonjour, Madame Denis.
Merci beaucoup d'être avec nous. Et il y a aussi à l'autre bout du fil, parce que vous êtes au bout du fil toutes les deux, Carole Brabant, proche aidante et qui est participante du projet à titre de co-chercheuse et de proche aidante, évidemment. Bonjour, Madame Brabant.
Bonjour.
Alors, merci d'être avec nous. D'abord, Madame Crocker, parlez-nous un peu plus en détail du projet qui s'appelle Recherche Action Participative. Qu'est-ce qui vous a motivé à le mettre sur pied?
Bien, ça fait plusieurs années que je pense à faire ce projet-là parce qu'on note, entre autres, d'abord, je voudrais juste mentionner, parce que je trouve que c'est toujours important de le faire, que bien qu'on s'adresse à la question de la violence, ça touche pas tout le monde. Hein? C'est pas toutes les personnes qui ont un problème de santé mentale qui ont des problèmes de violence. Mm-hmm. Mais chez ces personnes pour qui la violence peut être un comportement qui apparaît, ce sont souvent les familles qui en sont les victimes la plupart du temps. Et ça fait longtemps qu'on se dit qu'il faudrait faire un petit peu plus de travaux auprès des familles parce que, un, il y a relativement peu de services spécifiques à la gestion de la violence auprès des familles. Et deux, on connaît peu sur le phénomène à l'intérieur des dynamiques familiales. Et donc, on s'est dit, quand on a vu l'occasion de financement, on s'est dit, ben pourquoi on se mettrait pas tout le monde ensemble pour travailler cette question-là dans une approche de recherche-action participative pour que ce soit les personnes elles-mêmes touchées par les questions puis par les situations qui nous indiquent les besoins en connaissance et les besoins en service. Et donc, on s'est allié aussi avec l'organisme qui s'appelle CAP Santé Mentale, que vous connaissez peut-être ou que certains de vos auditeurs connaissent peut-être.
Certainement.
Qui est un organisme qui regroupe 50 organismes pour la proche aidance de personnes qui ont des problèmes de santé mentale.
Oui, qui s'appelait avant Réseau Avant de craquer.
C'est ça, exactement. Ouais. Puis ça vient de changer de nom pour CAP Santé mentale. Et on s'est allié avec eux pour monter un projet de recherche sur les 3 prochaines années pour mieux comprendre ces phénomènes-là et identifier quels sont les bons coups et les mauvais coups, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit aller chercher là, comme ressources supplémentaires. Et c'est à ce titre-là qu'on a invité Mme Brabant à être co-chercheuse sur le projet.
Alors justement, Mme Brabant, vous êtes proche aidante d'une personne qui a des troubles de santé mentale. Racontez-nous un petit peu votre expérience, votre situation.
C'est sûr. Mon fils a eu un diagnostic de schizophrénie il y a plusieurs années, puis a aussi été considéré non criminellement responsable suite à des gestes violents qu'il a posés. Il a fait un séjour à Pinel prolongé. Suite à ça, maintenant, il va relativement bien. Je vais me tirer du bois. Et puis, à partir du moment où il a été bien, je me suis impliquée soit dans la Fondation Pinel, soit dans le conseil d'administration. Et puis, il y a un événement qui m'a comme ouvert les yeux. J'ai aussi été proche aidante pour mon mari qui a eu un cancer. Et là, j'ai constaté l'énorme différence du support qu'on pouvait avoir quand quelqu'un est malade physiquement versus quelqu'un qui a des problèmes de violence au niveau de la santé mentale. L'approche que j'ai eue pour mon mari était personnalisée, adaptée à son type de cancer, adaptée à la famille. Puis dès le départ, ils ont intégré la famille dans le protocole de soins, ce que je n'avais pas vécu avec mon fils. Et puis, je me suis dit que les choses n'avaient peut-être pas tant changé que ça. Et quand Anne m'a approchée pour participer à ce projet-là, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accepté de participer parce que je pense que les familles, oui, parfois, c'est pas qu'il n'y a pas du tout de service, mais les familles, surtout quand elles sont confrontées à la violence, elles vivent beaucoup
de peur,
de honte, ouais. De peur. Elles savent pas à qui s'adresser. Elles ont surtout peur de perdre le contact avec leurs proches en posant des gestes qui pourraient les éloigner. Donc, d'avoir une étude qui va mieux comprendre ces phénomènes-là, qui va mieux comprendre aussi qu'est-ce qui est disponible puis qu'est-ce qui devrait être disponible, moi, ça m'a vraiment touchée et enthousiasmée.
Alors, Mme Crocker, vous avez parlé d'un projet qui allait se faire sur 3 années. Comment ça va se déployer? Comment vous l'organisez, ce projet? Vous êtes entourée d'une équipe. Il y a Mme Brabant. Il y a aussi d'autres proches aidants?
Hello, world.
Oui, il y a aussi Mme Suzanne Péloquin, qui fait aussi des travaux pour Cap Santé Mentale, qui est aussi une proche aidante. Et la façon dont on a construit le projet, c'est en différents volets. Mais la base, c'est aussi qu'on a un comité consultatif qui se rencontre à tous les mois. Et ce comité consultatif-là, il est composé de mes collègues co-chercheurs. Donc, on a d'autres chercheurs académiques qui sont impliqués dans le projet. Mm-hmm. Il est constitué aussi de proches aidants, de personnes elles-mêmes qui vivent un trouble de santé mentale important et de membres des milieux cliniques aussi qui offrent des services. Et ces personnes-là aident l'équipe de recherche à guider les bonnes questions qu'on va devoir aborder au fur et à mesure du projet. Alors, le projet se déroule en 3 grandes phases. La première phase, c'est de faire ce qu'on appelle une recension de la littérature, donc voir quelles sont les pratiques actuelles qui ont été étudiées pour soutenir les familles dans les interventions auprès de proches qui ont des comportements violents. Donc, voir qu'est-ce que la recherche dit de façon internationale. En parallèle à ça, on fait aussi une recension de quels sont les services disponibles auprès des familles qui incluent une composante autour du comportement agressif ou du comportement violent ou du comportement qui peut parfois faire peur. Fait que ça, c'est le premier grand volet du projet. Ça, c'est en cours en ce moment. Le deuxième volet va être de faire des entrevues qu'on dit de nature qualitative, c'est-à-dire que ce n'est pas un questionnaire strict, mais c'est des questions ouvertes, auprès des proches aidants, tant pour voir quelle a été leur expérience depuis le début de la maladie de leurs proches, concernant des comportements problématiques, difficiles, et aussi quels ont été les services auxquels ils ont eu recours, que ce soit de la santé, des services judiciaires ou des services policiers, et aussi quels sont les besoins non comblés qu'ils expriment. Fait que ça va être la deuxième phase. Et les questions qui vont être apportées vont être aussi guidées par ce comité consultatif-là. Et la troisième phase va être une enquête provinciale. Ce qu'on ne sait pas, c'est les taux. Parce que vous savez, la question de la violence, c'est tabou. Mme Brabant en a parlé tantôt. Il y a une question de honte. Est-ce qu'on devrait en parler? Quand on en parle, est-ce qu'on fait de la stigmatisation? Quand on ne parle pas, est-ce qu'on évite le sujet puis qu'on se cache la tête?
On est dans le déni.
Dans le déni. Alors, on va vouloir faire une enquête aussi auprès des proches pour savoir qui a vécu des expériences comme ça, c'est quoi les taux de prévalence, quels sont les besoins non comblés, mais sur une base plus populationnelle, donc plus large, pour avoir des chiffres, parce qu'on n'en a pas. On n'a pas ce type de chiffres-là en ce moment. Puis il y a très, je peux vous dire, en ayant commencé la phase 1, il y a vraiment très, très peu d'études sur le sujet.
Madame Brabant, vous avez dit que votre fils était schizophrène et que... Pour l'instant, ça va bien, ça va mieux. Est-ce que je dis la vérité?
Absolument, oui, oui.
Alors,
je dois dire que son séjour à Pinel lui a grandement, vraiment, vraiment beaucoup aidé.
Oui. Justement, parlons-en de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel. C'est un institut qui aide ces personnes qui ont des problèmes de santé mentale graves et qui ont des comportements qui peuvent être violents?
C'est exactement ce que j'ai vécu avec mon fils, vraiment. Mon fils avait été traité avant, mais ça prenait cet environnement-là multidisciplinaire qui intègre aussi à la famille. Ça prenait cet environnement-là pour vraiment changer ses comportements, lui faire comprendre l'état de sa maladie, en tout cas dans son cas à lui. Ça a été vraiment... je dis souvent, quand on m'en parle, je dis souvent qu'on m'a redonné mon fils et puis qu'on lui a redonné aussi le goût de vivre.
C'est extraordinaire, le goût de vivre et aussi une sorte d'équilibre pour tout
absolument,
le monde. Là.
Absolument.
Un climat un peu plus sain.
ça a pris ce temps de pause-là pour lui. Je ne dis pas que c'est la solution pour tout le monde. Je pense que c'est ça aussi qu'on vise, c'est de voir comme un peu en santé physique, adapter les réponses aux problèmes spécifiques. Donc, pas nécessairement avoir une approche qui est commune à tout le monde, ce qu'on voit malheureusement en santé mentale.
Alors, Madame Crocker, les besoins les plus criants des personnes qui ont des troubles de santé mentale graves, les besoins, vous les comblez à l'Institut Philippe Pinel?
Bien, en fait, l'Institut, c'est le seul hôpital de psychiatrie légale au Québec et c'est pour un certain sous-groupe d'individus. C'est pour les personnes qui ont des troubles mentaux effectivement graves puis qui posent des gestes de violence graves.
Quel genre de gestes de violence?
Ça peut être des agressions physiques, ça peut être des homicides dans certains cas. Il peut avoir des agressions moins graves aussi, mais que le comportement agressif est comme plus constant, plus répétitif. Des comportements qui sont pas gérables soit dans d'autres hôpitaux psychiatriques pour une période de soins. Hein, on s'entend, là, c'est aussi une période de soins. C'est pas quelque chose qui est ferme et qui est statué nécessairement à long terme. Et qu'on ne peut pas gérer soit dans la collectivité ou dans d'autres hôpitaux pour une période donnée. Donc, ce n'est pas tout le monde qui doit se retrouver à l'Institut. Et ce n'est pas tout le monde pour tout le temps non plus, c'est par période. On essaie de hiérarchiser les soins, c'est-à-dire qu'en fonction de l'état de la personne, de ses capacités à réintégrer la collectivité ou à avoir certains comportements qui sont moins problématiques, on va transférer les personnes vers soit des soins en hôpital psychiatrique plus général ou dans la collectivité avec ou sans suivi d'équipe sur une base plus intensive ou moins intensive. Fait que le but, c'est d'adapter le niveau de soins et de sécurité en fonction du niveau des besoins et de sécurité de la personne tout au long de sa vie. Donc, ça peut varier d'une personne à l'autre et pour une période de temps X pour une personne et plus long pour une autre personne. Donc, c'est variable.
Madame Brabant, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui vivent une situation semblable à la vôtre, même si, comme vient de le dire de Madame Crocker, c'est du cas par cas, là?
Je pense que l'important, c'est d'essayer d'avoir, pour moi, ce qui a été vraiment aidant, c'est de pouvoir avoir des conversations avec son psychiatre, avec des personnes qui connaissaient l'environnement, qui connaissaient la situation. Pour moi, ça a été très aidant. Ça varie, c'est comme je disais tantôt, ça varie de chacun. Pour certains, ça va être des groupes d'entraide qui vont les aider. Moi, je vais dire que pour moi, ça m'angoissait plus que de savoir. Il y a des gens qui aiment ça, savoir ce qui va arriver. Il y en a d'autres qui aiment mieux garder un peu de flou. Mm-hmm. Moi, je suis un peu dans le genre garder un peu de flou pour pas me stresser pour ce qui va arriver. Donc, d'avoir des conversations avec des personnes qui sont au courant de la maladie, qui sont au courant du cas, tout en protégeant, ce qui est difficile, c'est la protection des renseignements personnels, mais je pense que c'est important d'échanger avec des professionnels pour mieux comprendre la maladie, pour mieux savoir comment agir aussi, parce que des fois, je me rappelle, les professionnels me disaient non, il ne faut pas exacerber, il ne faut pas intervenir. Ça, on est toujours confrontés, les familles, comme ça. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas assez? On a le jugement des autres aussi qui disent non, tu devrais le laisser, tu devrais le laisser faire, pas t'en occuper. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, de parler avec des professionnels, pour moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé.
Et vous parlez
d'avoir accès à ces professionnels-là aussi.
Oui, parce que il y a moins d'émotion. Bien, il y a de l'émotion, j'imagine, là, dans les conversations, mais c'est quand même quelqu'un qui a une expertise et qui est capable de vous aider de façon plus rationnelle, je dirais.
Oui, et en
plus spécialisée.
Je donnais l'exemple des soins en santé physique. Puis avec mon mari, ce que j'avais, c'est que j'avais une infirmière pivot, par exemple, à qui je pouvais contacter s'il y avait quelque chose qui me préoccupait. Mais c'est un peu le même parallèle que je dirais qui pour moi aurait été utile si pour voir, bon, par exemple, des symptômes, des choses. Est-ce que ça doit me préoccuper? Parce que c'est ça qu'on vit quand notre proche est violent. Ça devient notre quotidien. Donc, on a de la difficulté à identifier le moment où ça change de registre. Et ça, pour ça, on a besoin d'aide.
Oui. Les seuils de tolérance varient beaucoup avec le temps aussi. Et ça met les familles dans des situations des fois intenables de pas trouver des services et de devoir appeler les services policiers puis de créer toute une autre situation de tension avec leurs proches puis des difficultés. Fait que c'est important de pouvoir adresser ces besoins-là. Puis je pense qu'on peut juste les faire en travaillant ensemble là-dessus. Là.
Vous allez proposer, Mme Crocker, un guide numérique pour outiller les proches. On va pouvoir l'avoir quand, ce guide-là?
Probablement à la fin du projet de recherche.
Dans trois ans.
Quand même oui, mais j'ai l'impression que ça va être un petit peu plus tôt parce que avec Cap Santé Mentale, ils ont déjà commencé à travailler un peu de ce volet-là. Ça fait partie d'ailleurs des travaux qui découlent du plan d'action interministériel en santé mentale. Et c'est dans cette occasion-là aussi qu'on a commencé à travailler avec Cap Santé Mentale. Fait que l'idée d'un guide, c'est d'avoir des ressources pour les personnes, mais on va aussi, un des objectifs ultimes du projet, outre d'avoir les chiffres puis de mieux comprendre, c'est aussi de voir est-ce qu'on peut créer des guides réflexifs ou des cues pour les intervenants aussi.
Oui,
parce
des signaux.
Toujours des signaux.
Madame Crocker, restez en onde avec Madame Brabant. On se retrouve tout de suite après la pause.
Oui. D'accord, désolée.
De retour pour conclure cette entrevue avec Anne Crocker et Carole Brabant à propos de santé mentale, de problèmes de santé mentale grave et de comportements aussi graves. Et ce qui donne de l'espoir, c'est qu'on est en train de mettre sur pied le projet Recherche Action Participative qui devrait aider, entre autres, les proches aidants. Et on parlait du guide numérique, Madame Crocker. Je vous laisse terminer, donc.
Oui, alors le guide numérique va être disponible pour les proches aidants, évidemment. Mais en parallèle, on disait aussi qu'on voulait développer des recommandations de services aussi qui pourront être explorées par les différents services de santé mentale et aussi des guides de formation et de développement pour les intervenants. Parce que Mme Brabant parlait plutôt de faire partie de l'équipe prêtante ou de faire partie des informations et comment on peut améliorer cette relation-là aussi entre les familles et les équipes traitantes sur le terrain.
Alors, s'il y a une personne qui nous écoute, qui est proche d'une personne qui vit avec des problèmes de santé mentale graves, qui a besoin d'aide maintenant, à qui cette personne doit-elle s'adresser?
Bien, c'est clair que l'organisme CAP Santé Mentale est quand même bien outillé pour recevoir et guider les personnes vers les organisations qui sont dans leur entourage. L'hôpital peut être une option quand c'est nécessaire, mais je commencerai par les organismes là, qui sont là en soutien aux familles d'abord et avant tout.
Alors, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue, Anne Crocker, professeure titulaire et directrice de la recherche et de l'enseignement à l'Institut national de psychiatrie légale. Philippe Pinel, titulaire de la chaire de recherche du Canada en santé mentale, justice et sécurité, notamment parce que vous avez toute une feuille de route. Et Carole Brabant, donc proche aidante, participante au projet dont on a parlé pendant cette entrevue, co-chercheuse finalement. On va vous suivre et j'espère qu'on pourra en reparler ensemble d'ici trois ans.
Avec plaisir.
Merci, au plaisir.
Merci.